RFI.
Alors, on dit quoi ?
Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode d'Alors on dit quoi. Ce samedi, on a décidé de vous parler des jeunes qui évoluent dans l'univers du sport de haut niveau. Vous rêvez de devenir une star dans votre sport de prédilection? Eh bien, Alors on dit quoi vous décrypte justement l'univers des sportifs de haut niveau, leur quotidien, leur formation, les difficultés et bien d'autres secrets. Et pour approfondir cela, eh bien, rencontre également avec Syra Silla. En plus d'être basketteuse, elle a plusieurs casquettes, journaliste, militante associative, fondatrice de clubs de basketball à Paris et au Sénégal, entrepreneuse, communicante. C'est une jeune femme pleine d'énergie et de conviction. Elle nous parlera de son podcast Women Sport Stories qui raconte les sportives de haut niveau. Et comme d'habitude, Anna et Valdez reviendront sur une fake news et un bon plan culture à découvrir sur le continent. Allez, c'est parti, Ndéhène.
Alors, on dit quoi ? Avec Djaran Djaï.
Et ne perdons plus de temps, je vous présente mes invités du jour. Bienvenue à l'athlète franco-sénégalaise Sorna Gallé. Du haut de ses 25 ans, elle a déjà remporté le championnat de France de triple saut. Mais ce n'est pas tout. Bonjour Sorna.
Bonjour.
Bonjour également à Sarah Loko-Gürschner, congolaise de 32 ans. Elle fait du judo et du sambo. Et elle a d'autres casquettes, mais elle nous en parlera plus tard dans l'émission. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Et enfin, l'homme du jour, Danny Ndjiba Mukana, 28 ans, boxeur congolais. Il a un très très beau palmarès, mais sachez qu'il est notamment champion d'Europe EMC 2017 et 2018.
Bonjour.
Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et pour entrer dans le vif du sujet, quoi de mieux que d'écouter ce reportage réalisé en Guinée par notre correspondant Alpha. On l'écoute.
Nous sommes au stade annexe du 28 septembre de Conakry. Ce soir, c'est l'équipe de rugby qui occupe cette pelouse. Le rugby, une discipline très peu connue en Guinée, et c'est pourtant celle qu'a choisi Abdoulkarim Diallo pour faire carrière.
Le football est développé plus que toutes les autres disciplines en Guinée, mais nous aussi dans notre discipline, nous espérons évoluer. C'est pas facile, mais comme on a le soutien de nos encadreurs qui font tout pour nous, nous espérons évoluer quand même, mais c'est pas facile pour nous. Je veux lancer un appel pour que le gouvernement fasse face aux autres disciplines, qu'il s'intéresse aussi au rugby, pour voir, investir sur nous, pour qu'on puisse améliorer.
Le jeune Karim caresse de grands rêves.
Dans le futur, je voudrais que le rugby se développe en Guinée aussi comme en Occident. Je suis le top 14. Vraiment, c'est un sport très, très convoité en Occident, en Europe surtout. Le top 14, si tu regardes, c'est les joueurs qui sont là-bas, ils sont vraiment dans le luxe. Je veux me retrouver dans le top 14. C'est mon rêve. Mais je voudrais d'abord que, dans mon pays aussi, que le rugby se développe. Pour montrer aux Guinéens que ce n'est pas seulement le football qui est le sport. Le rugby aussi en fait partie.
Seydou Bafodé Camara, lui, est un footballeur. Étudiant en médecine, ce jeune a longtemps pratiqué le sport dans les rues de Conakry avant de rejoindre l'académie Pita Foriva il y a 6 mois. Jumeler ses études et ses entraînements n'est pas aisé. Mais Seydouba s'organise.
Je m'entends beaucoup avec mes coachs. Je leur ai expliqué mon programme. Notamment, moi, j'ai cours du lundi au samedi, de 14h à 18h. Le matin aussi, je vais faire le stage. Donc, au moment où je serai un peu libre, disons les week-ends, je quitte l'école et je vais au centre pour m'entraîner. Bon, je me dis, moi, que rien n'est facile dans ce monde. Il suffit juste de se donner. Dès que je me lance, ça devient facile pour moi. C'est comme ça que je fais. Je fais le nécessaire pour ne pas que mes parents voient du mauvais côté de ce que je fais. Notamment, je me donne à fond dans les études, ce qui pousse mes parents à me soutenir aussi dans le sport.
Seydou Bafodé rêve de devenir attaquant international. Le chemin est encore long et plein d'embûches, mais il se bat pour réussir son pari.
Disons, c'est une passion pour moi, le football. Raison pour laquelle, même avec cette étude de la médecine, j'ai fait tout possible pour faire le sport. Bon, dans le football, j'ai un club de cœur déjà où mon compatriote guinéen, Dion Denabi Kita, joue. Je rêve vraiment de jouer dans ce club qui est Liverpool. Donc, je vais porter le numéro 9 de Liverpool. Bon, ma référence en tant que joueur attaquant, je dirais, c'est Aboka Titi Camara que nous connaissons bien. J'aimerais bien porter l'équipe nationale guinéenne comme il l'a fait en son temps. et voir plus que lui.
Réussir dans le sport, ce n'est déjà pas facile pour les hommes. Mais lorsqu'on est une femme, les obstacles sont encore plus nombreux, comme en témoigne Aissatou Diallo, basketteuse.
Bon, c'est pas trop facile hein, parce que avec les cours, il y a la famille qui nous embête surtout. Quand même, c'est un peu décourageant hein, parce que ici, le sport, les hommes sont plus favorisés. Quand on a 2 heures d'entraînement, si on s'entraîne et puis il y a un match, on nous donne, disons, 20 minutes de jeu. Les 40 minutes sont pour les garçons. Et puis, selon la religion aussi, on a des sérieux problèmes. Par exemple, moi ici, on me dit, ne porte pas des culottes comme ça, des trucs, ne laisse pas ta tête comme ça. Je fais l'effort de porter des collants, des manches longues, tout. Mais quand même, je rêve booster ma carrière de basketteuse.
Dans le monde du sport, beaucoup de talents naissent et meurent sans le plus souvent se faire une carrière de rêve. Pour cause, le manque d'organisation personnelle et d'encadrement du sportif. Djibril Sampou est manager général du Wakria Athletic Club.
Des aléas, ça finit pas, surtout en Afrique. Donc, j'en connais pas mal de jeunes joueurs ici qui ont peut-être moins de 20 ans, 21 ans. Ils ont déjà 4 saisons en championnat première division guinéenne. Donc, moi, je me dis que c'est les cas pareils. Donc, on doit toujours éviter. Il y en a qui se lancent avec certaines vices, suivre des jeunes filles qui sont mal encadrées.
Le manager a quelques conseils pour les jeunes qui veulent faire carrière dans le sport. Djibril Sampou.
Il faut une vraie formation à la base pour réussir dans le monde du sport. Il faut être bien entouré, il faut être bien conseillé, de ne pas se lancer très vite dans le professionnalisme parce que déjà, moi, je peux dire que le professionnalisme manque beaucoup aux jeunes footballeurs africains. Donc, c'est la formation à la base d'abord avant tout. Donc, moi, je me dis que c'est une tâche très, très difficile pour réussir dans le monde du sport.
En fin de compte, les rêves sont grands, mais les places sont chères. Le dernier conseil du manager Djibril, patience, travail et détermination.
Patience, travail, détermination, les rêves sont grands et les places sont chères. Il a raison, Alpha Sornin ?
Ouais, il a raison parce que vu tout le travail qui doit être fourni, il y a très très peu d'élus. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un peu toi et ta chance, comme il a dit. Si tu es bien entouré, si tu as tout ce qu'il faut, tu peux le faire, mais il suffit d'un petit détail pour que tout tombe à l'eau.
Sarah, que pensez-vous de ce reportage que vous avez entendu ? Est-ce que vous avez constaté des similitudes entre le reportage et ce que vous vivez, vous, en tant que judoka ?
Oui, le témoignage de la basketteuse, je me reconnais vraiment dans ce qu'elle a dit, tout simplement parce que dans le sport, déjà, les femmes, on est un peu discriminées, surtout quand on veut avoir des enfants. Moi, j'ai un enfant, j'ai un petit garçon de 2 ans. Et donc, quand j'ai annoncé à mon entraîneur que j'allais devenir maman, c'était un peu compliqué de lui avouer, en fait. Au début, j'ai caché un peu à mon entraîneur. Il me disait, alors, comment se passe ta préparation? Parce que moi, je m'entraîne à l'étranger. Et moi, je savais pas trop quoi répondre. Donc,
pourquoi vous avez ressenti cette gêne, en fait?
Parce qu'en fait, faut pas se le cacher. Dans le sport, dès qu'on parle d'enfant, c'est comme une petite mort. On a l'impression que les gens, ils nous mettent à côté. Pour eux, c'est comme si ça, c'était la fin de la carrière d'une personne, en fait.
Vous constatez-vous aussi des différences entre les hommes et les femmes, notamment peut-être au niveau même du traitement médiatique, des salaires et plein d'autres choses dans le domaine de l'athlétisme où vous évoluez ?
Alors, dans l'athlétisme, c'est un petit peu moins, je dirais, parce que c'est un sport où il y a aussi bien, c'est un sport individuel. Donc, tu brilles par toi-même. Mais voilà, différence de traitement, différence de salaire et comme vous l'avez dit surtout, une différence d'exposition dans les médias. Le 100 mètres masculin sera toujours plus attendu que le 100 mètres féminin, alors que pourtant c'est la même distance et c'est le même effort.
Dani, je me tourne également vers vous pour connaître votre ressenti après avoir écouté ce reportage.
La dernière personne qui parlait de tout ce qui entoure un sportif, quoi,
l'encadrement au niveau
du sportif, il a raison. Parce qu'il arrive un moment où au début tu es là en tant que loisir. Et après, plus ça commence à monter, plus tu commences à aimer ton sport et tu te dis pourquoi pas devenir pro. Et c'est là que ça devient compliqué. Est-ce que t'aimes ton sport ou est-ce que...
Quel sacrifice faut-il faire?
Et
comment on se décide alors à concrétiser ce choix de devenir professionnel?
Je pense que c'est propre à chacun, quoi. C'est la personne, comment elle a été encadrée, sa mentalité, comment elle a été éduquée depuis qu'elle est petite ou petit. Et après, voilà. Il fait son choix. Mais pour la plupart, et ce problème-là, il n'est pas qu'en Afrique, il est même ici.
C'est un choix difficile.
C'est un choix difficile. Il y en a, Ils ont arrêté leur carrière à cause de ça.
Il y a un des intervenants qui a parlé également d'exemples qu'il suit, de Titi Camara, qui évoluait dans la sélection guinéenne. Est-ce que vous aussi, vous avez des modèles? Alors, je vais faire un petit tour de table, peut-être on va continuer avec vous, Dany. Ensuite, je vais recueillir vos témoignages des filles.
Dans la boxe thaï, on avait un grand boxeur noir dans les années 90 qui s'appelle Danny Bill, l'un des seuls boxeurs noir à avoir fait autant parler de lui. Et oui, je le considère un peu comme un modèle.
Vous vous inspirez, vous également, Sorna, de personnalités ou de personnes pour évoluer dans votre carrière d'athlète?
Pas du tout.
Vous vous sentez libre d'avancer
Ouais, je pense qu'il y a tellement de parcours différents. Après, voilà, j'aime certains sportifs plus que d'autres. Mais j'ai personne dont le parcours ressemble au mien. Et franchement, je ne retrouve dans personne.
Et vous, Sarah?
Moi, ma préférée, c'est Serena Williams. Parce que je trouve qu'elle a un charisme hors norme. Malgré les critiques qu'elle a eues après la naissance de son enfant, les gens doutaient par rapport à sa capacité à revenir au plus haut niveau. Elle a toujours continué d'avancer. J'aime bien aussi Alison Félix, l'athlète. C'est pas des femmes qui, je pense, sont comme moi. Je me reconnais pas en elles, mais je trouve que c'est des exemples à suivre et elles sont inspirantes.
Elles sont inspirantes, en tout cas. Alors, d'autres personnes inspirent, comme notre auditeur qui nous appelle aujourd'hui, Rudy. Rudy est, lui, footballeur. À présent, il évolue dans le championnat anglais à Middlesbrough FC. Il est professionnel depuis quelques temps et on va le prendre en auditeur pour témoigner un petit peu autour de son parcours. Bonjour, Rudy.
Bonjour.
Alors vous êtes professionnel depuis vos 18 ans, mais vous étiez dans un centre de préformation dès vos 12 ans, puis dans un centre de formation à 15 ans. Alors racontez-nous un peu comment ça se passe, cette intense formation, avant d'accéder au monde professionnel.
Le rythme est assez important entre 12 et 18 ans. On a des journées de 8h à 20h. Donc mentalement, il faut être assez costaud pour passer cette étape. Mais pour arriver à nos rêves, il faut passer par des étapes importantes et... c'est pour celle-là également que le tri se fait.
Durant ces années de formation, vous alliez études et entraînement sportif?
C'est ça. De 8h à 15h, on a cours au lycée ou au collège plus jeune. De 15h30 à 17h30, c'était l'entraînement. Et de 18h à 20h, les cours du soir.
Et aujourd'hui que vous avez accédé à ce monde de footballeur professionnel, est-ce que vous constatez une différence entre la formation que vous avez eue et la réalité du terrain? En fait, quand vous êtes pro, finalement.
Il y a une très grande différence, surtout les premières années. Au centre de formation, l'équipe reste la même pendant 3-4 ans. Mm-hmm. Arrivé dans le monde professionnel, chaque année, l'effectif peut être modifié, le coach peut changer. Donc, il faut s'adapter assez rapidement. Il y a moins, je pense, cette mentalité d'amitié ou de fraternité. C'est plus la compétition, la concurrence qui prend le dessus.
Et au-delà de cette capacité d'adaptation qu'il faut avoir, est-ce que vous rencontrez des difficultés que vous souhaitez partager peut-être avec nos auditeurs qui eux aussi souhaitent devenir peut-être footballeurs, pour être footballeur professionnel, je dirais?
Si je veux parler de mon parcours, j'ai eu pas mal de pépins physiques. Donc il a fallu, après de grosses blessures, revenir au haut niveau. Donc ça, c'est un gros travail physique, un gros travail mental. Ensuite, j'ai quitté la France assez rapidement, donc l'adaptation dans un pays étranger est aussi délicate. Il faut bien s'entourer et être sûr que mentalement, on est prêt à passer cette difficulté.
En tout cas, merci infiniment, Rudy, d'avoir partagé avec vous votre expérience. Je vais laisser nos invités réagir. Je vous ai vu réagir notamment quand il a parlé de blessures. Ça fait partie de votre quotidien, Sarah?
En fait, moi, c'est compliqué parce que j'ai eu un enfant en 2017. J'ai accouché en 2017. Et après 10 mois après la naissance de mon enfant, j'ai repris les compétitions. J'étais en forme, tout se passait bien. J'ai fait une Coupe d'Europe où je me suis classée dans les 8 premières. Seulement après la naissance de mon enfant, j'ai perdu 23 kilos après sa naissance pour revenir au plus haut niveau.
23 kilos, c'est énorme.
En 10 mois, ouais. J'ai perdu 23 kilos et du coup... au championnat de Belgique, dans une compétition, j'étais en demi-finale, pourtant j'étais bien partie pour aller en finale. Je me fais une rupture des ligaments croisés pendant un combat. Et du coup, c'est une blessure qui est très longue, même dans le football, c'est une blessure très courante. Et donc, c'est très dur, après une blessure comme ça, de revenir au plus haut niveau. Il faut vraiment avoir, comme il dit, la force mentale et les ressources nécessaires physiquement pour franchir un cap, en fait, faut franchir un cap.
Comment on se relève d'une blessure comme ça, quand on est en plein championnat? C'est difficile de se réadapter, de replonger finalement, même si on a une préparation physique avant, de reprendre les tournois, mais c'est pas simple de reprendre Sornin.
C'est très très compliqué et c'est là que l'entourage joue en fait. Parce que là, t'as deux possibilités. Soit tu te relèves jamais, donc ça va enchaîner blessure, cercle très très négatif. Ou alors, au contraire, t'as déjà ta rage à toi, ta motivation, parce que le sportif de haut niveau, c'est un mental surtout. Et t'as l'extérieur, c'est-à-dire que t'as l'entraîneur qui te lâche pas, parce que si t'as des adversaires qui s'entraînent avec toi et qui sont peut-être un peu meilleurs que toi, on sait jamais si ton coach peut peut-être porter plus d'attention.
Mais il y a de la concurrence également.
Voilà. Mm-hmm. T'as la Fédé qui peut te lâcher aussi, les sponsors. Et c'est là que ta famille et tes amis, ton staff médical, ils comptent uniquement. Parce que sinon, voilà, tu te relèves pas après des grosses blessures.
Vous comprenez un petit peu ce qu'elles vivent, j'imagine,
un peu,
Dani.
Parce que, comment dire, moi, après, Dieu merci, j'ai la chance de ne pas blesser souvent. Depuis le temps que je fais ce sport, je me blesse pas souvent. Et c'est ce qui me fait peur, d'ailleurs, parce que, justement, le jour où ça arrive, où ça arriverait, je sais pas comment je réagirais. Mais après, avec le temps, j'ai su que tout est une histoire de mental, comme elle a dit. Et ça va, le mien, et... Il est d'acier.
Il est d'acier. On va parler justement de vos parcours juste avant. Je rappelle à nos auditeurs que ce samedi, on a décidé de parler des jeunes qui évoluent dans l'univers du sport de haut niveau. Notre émission, Alors on dit quoi, vous décrypte donc l'univers de ces sportifs de haut niveau comme Sornin, Sarah et Dani.
Alors on dit quoi, Jaranjai.
Alors, on va justement parler de vos parcours. Sornin, vous avez une très belle carrière d'athlète de haut niveau et vous n'avez que 25 ans. Mais finalement, 25 ans, c'est déjà une catégorie senior, c'est bien ça ?
C'est ça.
Au niveau de l'athlétisme.
Exactement.
Et vous êtes spécialisé, vous, au triple saut. Mais comment est née cette passion ? Comment vous avez été repéré, surtout ?
En fait, j'ai commencé le sport parce que mon père m'a inscrit au sport. Donc voilà, moi, ma mère, elle m'avait mis au piano, mon père au sport. Donc ça a été la compétition entre les deux. Et à un moment, il a fallu faire un choix, parce qu'avec l'école, en plus, c'est compliqué. Donc, je suis restée à l'athlète où je m'en sortais pas trop mal. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'en m'entraînant moins que les autres, j'arrivais à être un peu meilleure. Et c'est là qu'en fait, progressivement, les choses se sont faites. Et je suis arrivée à m'entraîner à Dreux avec un coach qui s'appelle Hervé Bouffinier, qui détecte beaucoup de talents en athlète. Et de là, on va dire que le monde réel du sport, pour moi, a commencé quand je suis arrivée à Dreux.
Et en passant par Dreux, vous avez quand même été médaillé d'argent du triple saut aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été en 2010. Ça, c'était à Singapour. Médaillé d'or des championnats du monde d'athlétisme jeunesse en 2011. Ça, c'était à Lille. Et vous avez aussi été médaillé d'argent et de bronze dans d'autres compétitions. Il y en a beaucoup. Félicitations à vous, à Sornin. Mais dans quel état d'esprit on se trouve quand on reçoit une médaille comme ça, une médaille d'or, une médaille de bronze, et qu'on vous passe autour du cou ce fameux sésame?
Et je pense qu'en fait, on réalise même pas, parce qu'en fait, c'est surtout, on a passé une saison entière à s'entraîner dans le froid, dans la pluie, à voyager, à pas fêter les anniversaires, à être seul aussi, loin de sa famille. Et en fait, c'est, tu profites juste de ton moment et tu te dis, finalement, j'ai fait tout ça, et finalement, bon, bah, j'ai réussi à être la meilleure. Et je pense que c'est plus ça qui prime plutôt que le fait de recevoir la médaille, c'est de se dire, ouais, j'ai travaillé et je suis la meilleure, donc voilà.
Et comment on se prépare mentalement avant? Qu'est-ce qui donne la niaque pour justement obtenir cette médaille?
Bah, déjà, penser à tout ce qu'on a fait, hein. Franchement, honnêtement, quand on a... Moi, j'avais des séances où j'étais pas bien, je vomissais, de la course, ou moi, j'aime pas courir longtemps, et je faisais des cours, des footing en forêt avec mon coach, je me disais non. Et t'as deux doigts d'arrêter tout le temps. Et puis, au fur et à mesure de la saison, t'es de mieux en mieux, tu vas en compète, tu bats tes records, et en fait, c'est... T'engranges beaucoup de motivation, beaucoup de confiance. Et le sportif, franchement, je pense que le sportif de haut niveau, ce qui fait qu'il est sportif de haut niveau, c'est juste parce qu'il a un mental énorme.
Un mental d'acier, je vous vois acquiescer. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon sportif de haut niveau, tiens?
En vrai, ce qu'elle a dit, c'est vrai, parce que moi, je pars du principe que pour avoir des résultats, il faut souffrir à l'entraînement. Mm-hmm. Les gens qui croient qu'ils vont s'entraîner une fois par semaine, et après, ils arrivent en compétition, ils disent, coach, je comprends pas, j'ai perdu. Ouais. Mais en fait, tu t'entraînes pas.
Ce n'est pas étonnant, finalement.
Oui, c'est normal, elle a raison. Parce que moi, pour moi, avoir un entraînement bien fait, c'est à la fin, j'arrive même plus à bouger. Je rentre à la maison, je suis sur mon lit, j'ai pris ma douche, j'arrive plus à bouger. Là, j'ai cette sensation d'avoir fait un bon entraînement.
C'est aussi la souffrance, finalement, le sport de haut niveau, Dani.
Ça arrive à un niveau, des fois, aux entraînements, tu dois te surpasser tu dois faire un dépassement de toi non, c'est de la souffrance. Mais après, comme elle a dit, quand tu reçois la médaille, en vrai, bon, ok, t'es content parce que tu l'as là, mais c'est même pas ça en fait. C'est j'ai réussi, je suis le meilleur, point barre.
Alors parlons à présent de la préparation physique avec vous à Sorna, puisque vous vous entraînez à l'INSEP, c'est ça, l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. Décrivez-nous un peu une journée type. Alors comment ça se passe pour vous?
Une journée type, j'arrive sur l'INSEP en général à 10h30, parce que je m'entraîne en matinée, donc je fais ma première séance, ensuite il faut manger. Alors moi après je suis étudiante, donc entre temps il faut que je me trouve un moment pour réviser mes cours. Je retourne sur l'entraînement à 16h30, je finis à peu près à 18h, 18h30, et ensuite c'est le moment pour les soins, donc tout ce qui est kiné, massage de récup, balnéothérapie. Et voilà. Et le soir, en rentrant, abdos, gainage, étirement, et c'est ça toute la semaine.
Alors, on va prendre un autre auditeur en ligne. Il y a beaucoup de garçons qui nous appellent, hein, visiblement. Alors, prenons en ligne Stéphane Konaté. Il a 39 ans, il est ivoirien, il est basketteur. Bonjour Stéphane. Et
bonjour.
Alors Stéphane, vous, après un passage au sein de l'équipe nationale de basket en Côte d'Ivoire, oui. Aujourd'hui, vous transmettez justement votre savoir aux plus jeunes. Parlez-nous de cette reconversion.
Ben, il faut dire que nous, quand on était plus jeunes, on n'a pas eu la chance d'avoir des entraîneurs qui ont été pros, c'est-à-dire qui sont sortis du pays de la Côte d'Ivoire pour aller participer à des championnats en Europe ou dans le Maghreb. Les championnats là qui sont un peu plus développés que le championnat local. Donc, quand tu as cette chance-là d'être entraîneur avec un niveau quand même international, et avoir pratiqué tout ce haut niveau de basket, c'est un plaisir pour toi de faire un giving back, comme on le dit.
Et vous, voilà, vous enseignez donc à quel type d'élèves votre... C'est du basketball que vous faites?
Et moi, déjà à la base, je suis prof de sport, prof d'EPS, dans les lycées et collèges. Et ensuite, je suis entraîneur de l'équipe nationale Benjamin de Côte d'Ivoire.
Et aujourd'hui, justement, quel message vous souhaitez laisser à la relève? Quel exemple?
Mais déjà, c'est le travail. Le travail, l'abnégation, l'hygiène de vie. C'est très, très important pour accéder au haut niveau dans n'importe quel sport. Donc, ce sont ces valeurs-là qu'il faut véhiculer aux jeunes aujourd'hui.
Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir participé à cette émission. Et puis, bonjour à tous nos auditeurs, bien sûr, de Côte d'Ivoire. Alors, on va continuer justement de connaître votre parcours et votre quotidien. Dany, parlons de votre sport. Vous faites du Muay Thai, c'est bien ça?
Oui, voilà, c'est du Muay Thai.
Alors, c'est quoi la différence entre cette discipline et la boxe classique, finalement?
La différence du Muay Thai à la boxe anglaise, c'est que la boxe anglaise n'utilise que les poings. Tandis que nous, le Muay Thai, on utilise les coudes, les saisies, les genoux, les jambes. On utilise tout le corps, quoi.
Utiliser tout le corps. Et vous évoluez dans la catégorie des moins de 70 kilos, c'est bien ça?
Voilà.
D'accord. Et la carrière professionnelle a débuté il y a 4 ans?
Oui.
Et pourtant, le chemin n'a pas été simple. Alors, je vous cite. Je viens de nulle part et personne ne se doutait que j'avais du potentiel pour apporter une ceinture. Alors, qui a cru en vous, finalement?
C'est mon coach actuel, Xavier Sévrin, que j'ai rencontré à Villetaneuse. On a passé 2 ans ensemble qui se sont très bien passés. La relation était bien parce que moi, je pense que une relation avec un coach, c'est important. Ça permet aussi une certaine facilité, une certaine cohésion sur certaines choses au niveau du sport que tu pratiques.
Et avec ce schéma d'entraînement, est-ce que vous avez plus de difficultés?
Moi, je sais que voilà, je devais aller en cours. Après les cours, faut que j'aille taffer. J'ai l'entraînement le soir.
Parce qu'en plus de ça, vous travaillez à côté.
Je travaille à côté. Parce que quand j'ai su que je voulais faire que ça, je lui ai demandé est-ce que je pouvais en vivre. Il m'a dit non. Malheureusement, en France, on peut pas en vivre. Mais tu touches quand même un certain cachet qui te permet de travailler à mi-temps.
Donc un cachet à chaque fois que vous remportez une ceinture?
À chaque fois que je combats dans
un
gala.
À chaque combat, vous avez un cachet.
Voilà.
D'accord. Alors, racontez-nous un peu justement la première victoire avec cette... Première ceinture au championnat de France, c'était en 2015.
15, oui. Bah déjà, j'avais une grosse déception parce que l'année d'avant, j'étais en semi-pro et j'ai perdu en demi-finale.
Visiblement, ça vous a donné la niaque puisque après vous avez gagné.
Donc l'année qui a suivi, je monte en pro. Je fais un parcours honorable. J'ai fait les huitièmes, j'ai fait les quarts, j'ai fait les demi, j'ai fait les finales. Certaines personnes, quand ils font le championnat, ils arrivent directement en quart ou en demi. Sauf que moi, j'ai tout fait et à la finale, j'ai la ceinture. Donc j'étais super content, surtout que c'était un combat très difficile, on ne me voyait pas gagner, j'étais outsider, Donc une belle victoire.
À qui est-ce que vous avez dédié cette belle victoire justement?
À personne, juste à moi.
Même pas à votre coach, les parents, la famille, la petite amie.
C'est pas ça, c'est que comme je vous ai dit, là aujourd'hui je le vois, parce qu'avant je comprenais pas justement ce sentiment-là. Quand j'encadre les petits à l'entraînement de temps en temps, je les vois, ils cherchent le regard de leurs parents. Et au début ça je le comprenais pas. J'ai demandé au coach, mais pourquoi il a besoin de toi
cette approbation
pour monter sur le ring ou. Pourquoi ils se sentent pas bien? Oui, ma mère est pas venue me voir. Et à force de voir cette réaction, j'ai compris. Mais au début, je comprenais pas parce que moi, j'en ai pas besoin.
Sarah, vous avez été également médaillée, comme nos deux autres intervenants, sacrée championne de France de sambo en 2015 et aux Jeux européens de 2015, médaille de bronze également dans cette même discipline. Que retenez-vous de ces moments? Qu'est-ce qui restera gravé à jamais dans votre mémoire?
En fait, moi, mon meilleur souvenir sportif, c'est une année où j'ai fait le Grand Chelem de Bercy. C'est le meilleur tournoi au monde au niveau judo. J'étais junior, j'étais à l'INSEP depuis 2004. Et en 2005, on m'a sélectionné pour le Grand Chelem de Bercy. Et normalement, j'aime pas que ma famille vienne voir mes combats. Parce que
quand on parle de famille,
quand
voilà.
Ils sont là, quand je combats, j'entends la voix et tout. Je cherche partout dans les gradins où ils sont. Mais ce jour-là, bizarrement, ils sont venus et j'ai fait ma médaille. J'ai fait médaille de bronze dans un tournoi senior, Grand Chelem. Donc c'est un gros tournoi. C'est mon meilleur souvenir sportif, parce que c'était la première fois que mes parents venaient me voir.
Donc vous, ça vous a motivé, contrairement à Denis.
Ça m'a grave motivé, j'ai fait médaille de bronze dans un tournoi où tout le monde disait que j'allais pas faire de médaille.
Donc parce outsider que également.
J'étais junior, j'avais 19 ans. Tout le monde pensait que j'allais perdre au premier tour. Et au final, j'ai battu la championne d'Europe senior, 7e des JO... championne d'Asie. En fait, je suis partie avec la fougue de la jeunesse.
Ça a marché. Et ça a payé finalement.
Voilà.
Et dites-nous, comment a débuté cette aventure avec le judo d'abord et ensuite le sambo, c'est bien ça?
En fait, c'est compliqué parce que le judo, j'ai commencé justement grâce à ma sœur. Mm-hmm. Mon père était footballeur, comme je vous ai dit, et rien à voir avec le judo. Il a jamais fait de sport de combat, mais il voulait qu'on fasse un sport de combat parce qu'on habitait dans un quartier un peu... On habitait à Drancy, c'était une zone un peu violente, donc il a voulu qu'on apprenne le judo pour apprendre à se défendre. Mais au départ, moi, je faisais de la danse en parallèle. Donc, quand j'ai commencé à faire du judo, à un moment donné où je commençais à faire des résultats, mon entraîneur, il m'a dit, bon, là, il faut commencer à penser au sport-études, il faut que tu fasses un choix, tu peux pas continuer à esquiver les entraînements de judo pour aller à la danse et les entraînements de danse pour aller au judo. Donc, après, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, plus d'une fois par semaine, plus de deux fois par semaine. Et après, j'ai intégré un sport-études en 2003. Et c'est là que tout a commencé.
Et vous êtes devenue professionnelle et championne. Donc, vous ne regrettez pas votre choix, finalement.
Non, je regrette
Puis
pas.
La danse, on peut danser à côté.
On peut danser tout le temps. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je suis arrivée à l'INSEP en 2004. Malheureusement, en 2012, j'ai eu une grave blessure. Mm-hmm. Et donc, à la suite de ça, on m'a un peu mise de côté.
Qui vous a mise de côté?
Bah, la fédération, ils m'ont plus sélectionnée. Parce que quand il y a beaucoup de concurrence au judo. Hein. Donc, quand j'ai eu ma blessure au pied, elle a duré un an. Il n'y avait pas de raison pour qu'ils me sélectionnent à nouveau. Donc, ils m'ont mise de côté. Et c'est là que j'ai fait du sambo, en fait. J'ai fait un break judo. Et le sambo, c'est une discipline tout à fait différente, puisqu'on a le droit d'attraper les jambes. C'est un mélange de jiu-jitsu brésilien, de lutte et de judo. Et en fait, j'ai commencé en 2015 et j'ai fait des résultats directement.
Ah, Vous avez été sacrée championne.
Oui. Championne de France. Au championnat d'Europe, j'ai fait 5e pour ma première participation. Et puis, aux Jeux européens, j'ai pris la médaille de bronze.
Félicitations,
merci.
Sarah. Aujourd'hui, vous êtes maman, en plus de la poursuite de votre carrière, un réel défi, j'imagine. Et vous êtes aussi actrice, modèle, journaliste sportive, notamment pour l'INSEP. Oui. Mais parlons justement de vos prochains challenges sportifs, puisqu'on arrive bientôt à la fin.
Mon prochain challenge, c'est de me qualifier aux Jeux Olympiques de Tokyo. J'espère que d'ici peu, après ma convalescence, je pourrai démarrer les tournois et représenter mon nouveau drapeau. Mon nouveau drapeau, en quelque sorte, mais c'est mes origines, donc c'est pas vraiment un drapeau, c'est dans le sang, c'est familial, c'est donc oui, c'est un objectif que j'ai de représenter le Congo, d'être la première femme aux Jeux Olympiques, de développer le judo là-bas et d'avoir, si je peux développer des vocations auprès des femmes là-bas, des jeunes filles.
Pourquoi pas? On arrive déjà à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on parle un petit peu de l'aspect carrière, l'après peut-être carrière, et puis vos projets actuels. Je vais commencer par vous, Asorna.
L'après-carrière, alors moi, j'y pense déjà. Donc, en fait, je suis en fac de droit, moi. Donc, j'entre en master et je vais faire un master droit du sport, droit des affaires. Donc, en fait, c'est pour rester dans le monde du sport, mais moi, je me vois pas entraîner ni quoi, parce que c'est très, très compliqué, je trouve. Donc, je penche plus du côté de l'accompagnement du sportif dans tout ce qui est contrat sportif, dans tout ce qui est organisation
management pour les... du sport.
Voilà, management du sport. Voilà.
Ben, on espère qu'il y aura de belles débouchées. Merci. En tout cas, bonne suite de carrière. Et enfin, Dany, en quelques mots, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Moi, je suis dans la même optique que Sarah, pouvoir développer le Muay Thai au Congo, comme on le fait avec un ami à moi au Sénégal en ce moment. Chaque année, on y va, on promouvoit le Muay Thai auprès des jeunes. Je voudrais le faire chez moi au Congo, à Kinshasa.
Eh bien, on espère. En tout cas, n'hésitez pas à nous tenir au courant de la suite de vos projets.
De souci,
on sera ravis d'en discuter avec vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment à vous, Sarah Loco-Gürsner. Merci à vous également, Sorna Galé.
Merci.
Et enfin, merci à vous, Dany Njiba Mukana.
Merci.
Alors, on dit quoi? Djaranjai.
La semaine prochaine, dans Alors on dit quoi? Réussir sans diplôme, est-ce possible? Nous vous posons la question. Aujourd'hui, 2 patrons sur 3 sont des autodidactes. On les trouve dans le commerce, l'hôtellerie, la restauration, l'industrie et plus récemment dans le digital, le web. Cancre à l'école, ils ont réussi à gravir les échelons à la seule force de leur volonté et de leur motivation. Alors, qui sont ceux qui réussissent sans diplôme? Quelles sont les perspectives d'emploi lorsqu'on n'a pas de diplôme? Et vous, que pensez-vous justement de ce précieux sésame? Dites-nous ce que vous en pensez et n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter ainsi que sur notre numéro WhatsApp au 33 647 740 742. Et direction le Cameroun avec la belle voix de Meshi et son son pour la vie. You said you have another. Said you have a lover, lover. Isn't it enough to love you, baby? It would be enough just saying you love me. Say you suffisait de t'aimer jusqu'à l'infini, on s'aimerait. Say you suffisait de t'aimer, t'aimer. Je t'assure que je vais rester pour toute la vie, la vie, la vie, pour toute la vie, pour toute la vie. Que t'as déjà un fils. T'as souci que ta maman t'a choisi une femme qui vient de votre église. Oh, I want your relief. You love watching me bleed. I can take it when you act like you don't care. But isn't it enough to love you, baby? It will be enough just saying you love me. Si il suffisait de t'aimer. De t'aimer, t'aimer. Je t'assure que je vais rester. Pour toute la vie, la vie, la vie. Pour toute la vie, pour toute la vie. La vie, la vie. Pour toute la vie, pour toute la vie. La vie, la vie. Pour toute la vie, pour toute la vie. La vie, la vie. Pour toute la vie. So right now, you're taking some time out to fix what is done now. I feel bad with you, but no, no. Tu t'en fous, tu t'en fous. De mes sentiments, tu t'en fous, tu t'en fous. J'ai le seul qui m'en fout. Mais quand on parle de moi, tu t'en fous. Oh, you know I want you, and I know that I want you. I'm sure that I want you, and I know that I want you. C'était Meshi pour la vie.
Alors, on dit quoi?
On va à présent à la rencontre de Sira Sila, basketteuse. Aujourd'hui, elle a plusieurs casquettes, dont celle de journaliste et fondatrice du podcast Woman Sport Stories. On en parle avec elle tout de suite. Bonjour Sira.
Bonjour.
Alors, depuis le début de l'émission, on parle de la carrière des sportifs de haut niveau. À quel niveau, vous avez évolué dans le basket?
Alors moi, je fais du basket depuis une vingtaine d'années et j'ai joué à un niveau semi-professionnel. Donc, c'est de la National 3, c'est... juste au-dessus des niveaux régionaux, etc. Et juste avant d'être considérée comme professionnelle.
Vous avez arrêté ou alors voilà,
non, je joue encore aujourd'hui. Dans quel club? Plus bas niveau, j'ai créé un club de basket féminin dans le 20e arrondissement qui s'appelle le Paris Lady Basket. Et du coup, je joue là-bas.
Et si vous deviez retenir un souvenir peut-être de cette époque?
J'en ai tellement. Mais je pense que les meilleurs moments que j'ai passés, c'est quand je faisais des tournois l'été avec des amis qu'on bougeait un peu partout en France ou même à l'étranger pour jouer au basket.
Et quand on évolue justement en semi-pro? Alors, semi-pro, il y a quand même un encadrement particulier, comme les pros, ou alors c'est vraiment plus proche du volet amateur.
Ça reste de l'amateur dans le sens où on s'entraîne déjà pas tous les jours. Déjà, on n'est pas payé, on n'est pas salarié. Ensuite, on s'entraîne pas tous les jours. Ça reste 2 entraînements par semaine plus les matchs. Et même au niveau de l'encadrement, ça reste quand même du niveau très amateur.
Et aujourd'hui, c'est terminé. Vous n'avez pas essayé d'évoluer vers le statut pro?
Non, j'aurais aimé être pro un jour, mais je crois que c'était un grand rêve, et à défaut d'avoir évolué en pro, j'étais journaliste et je suis toujours journaliste sportif spécialisée dans le basket, et du coup j'ai beaucoup à faire aux pros, que ce soit homme ou femme, et donc j'ai des amis donc qui jouent en tant que joueuse pro, et du coup c'est ma façon de côtoyer le
monde des professionnels du basketball. Ouais. Parlons justement de cette reconversion, vous êtes devenue journaliste, alors comment est née cette vocation, comment est née cette passion finalement pour
C'est venu de nulle part, parce que je faisais des études pour être ingénieur informatique, donc j'étais en école d'ingénieur, et moi je me suis mise au basket, je me suis prise de passion vraiment pour le basket, donc je jouais vraiment tous les jours, je faisais des tournois, etc. Et quand il y a eu la période des blogs, quand internet est arrivé, qu'il y a eu les blogs, etc., j'écrivais sur tous mes déplacements, je racontais un peu nos tournois qu'on faisait, les rencontres que je faisais également, et j'ai des amis qui avaient un site internet et qui s'est transformé en magazine papier, qui m'ont demandé d'écrire sur ces péripéties liées au basket. Et petit à petit, j'ai commencé à me créer un réseau au niveau des joueurs, à rencontrer beaucoup de joueurs professionnels et de joueuses professionnelles. Et donc, j'ai fini par devenir journaliste sportive.
On en arrive à Women's Sport Stories, un beau projet. J'ai écouté quelques podcasts, cool. Notamment le dernier, super intéressant. Et pour être plus précis, c'est un podcast présenté alors par vous-même et qui donne la parole aux sportives.
C'est ça.
Uniquement.
Très important.
De haut niveau.
C'est ça.
Alors, les femmes n'ont pas assez la parole?
Alors, moi, je trouve que non. Je trouve qu'on parle beaucoup et assez facilement de sportifs qui marquent leur sport. À raison, qui ont des performances assez folles. Et je trouve que quand c'est une femme, on n'en parle pas assez. En fait. Et du coup, j'ai créé mon podcast qui est dédié aux sportives de haut niveau et dans lequel je leur donne la parole.
Et quelle est l'ambition finalement du podcast? Au-delà de donner la parole aux femmes, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en lumière?
Alors c'était de donner la parole à ces sportives, et ensuite moi je trouve qu'on minimise un peu le métier de sportif de haut niveau, parce que c'est un métier, et souvent on entend dire « Ah, c'est leur passion, elles sont payées pour ça, il n'y a pas de galère », alors que derrière ça il y a du travail, elles s'entraînent tous les jours, il y a des sacrifices aussi, que ce soit familiaux, il y a plein de femmes sportives qui ont mis de côté leur ambition au niveau familial pour pouvoir évoluer dans leur sport, il y a vraiment beaucoup de travail et de sacrifices qui sont faits pour pouvoir atteindre le sport de haut niveau, et je trouve que les gens s'en rendent pas forcément compte, et quand on me raconte aussi, quand je parle avec mes amis qui sont sportives, je vois bien qu'autour d'elles, les gens se rendent vraiment pas compte de ce que ça demande d'évoluer vraiment au niveau, quoi.
Et quel serait pour vous l'aboutissement de ce projet, ce beau projet Woman?
Alors, je sais pas s'il y a un aboutissement, parce que du coup, il y a tellement d'histoires à raconter que l'idée c'est que
de poursuivre,
que, ça se poursuive. Après, j'aimerais bien peut-être développer, avoir peut-être recevoir d'autres personnes qui sont pas forcément sportives, mais qui sont liées au milieu du sport de haut niveau, peut-être pour expliquer peut-être des médecins ou pour expliquer justement ce qui a trait au haut niveau, et puis peut-être aussi faire des documentaires vidéo, parce que je pense qu'avec l'image, on se rend mieux compte de ce que c'est, de tout ce que ça demande et du travail que c'est.
Alors, en quelques mots, puisqu'on arrive déjà à la fin de cet échange, Syrah, où est-ce qu'on peut retrouver ce podcast?
Alors, sur toutes les applis de podcast, donc Apple Podcasts, Castbox, Spotify, SoundCloud, etc. Et j'ai également un site internet dédié, donc qui s'appelle womensportstoriespodcast.com. Grâce à mes études d'ingénieur informatique.
Ça aide d'être polyvalente.
Donc voilà. Et puis après, sur les réseaux sociaux, Women Sport Stories.
En tout cas, merci infiniment d'avoir échangé avec nous aujourd'hui, Syrah Sylla. Je rappelle que vous êtes la fondatrice du podcast, un beau podcast à écouter, Women Sport Stories.
Merci beaucoup.
Alors on dit quoi?
Et à présent, on écoute le message de Moussa Ouagé, un message plein de sens. Il nous parle de l'échec. L'échec n'est pas une fatalité, bien au contraire, on l'écoute.
L'échec est un tabou ultime de la culture francophone. Tellement tabou qu'on n'ose même pas l'évoquer. En effet, l'échec est vu comme la fin d'un projet, la fin des rêves et d'espoir. Pourtant, l'échec peut aussi être le début d'un nouveau cycle. J'en suis convaincu, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Si on tire des leçons de nos erreurs, de nos échecs, on peut arriver à proposer une solution plus efficace et même atteindre de plus grands objectifs. Par exemple, Michael Jordan, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand basketteur de l'histoire. Pourtant, ses débuts à lui étaient difficiles. Il a dû perdre beaucoup de matchs, ainsi rater beaucoup de tirs, pour pouvoir arriver au niveau qu'il a eu. Et enfin, je vais vous citer Bill Gates, qui lui avait dû carrément mettre fin à ses études à Harvard, et avait même échoué lors de la création de sa première entreprise, pour aujourd'hui créer la multinationale qu'on connaît, Microsoft. L'échec n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle réussite.
Et si vous aussi, vous souhaitez nous adresser un message, eh bien n'hésitez pas, contactez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram.
Appelle-nous sur WhatsApp au 33 647 740 742.
Et mon kiff musical de la semaine, c'est « Si Dieu le veut » de Benji. Premier extrait du projet Karma, prévu en hiver 2019. Ce titre entraînant aux sonorités afro-pop porte un message tourné vers l'avenir. La signature vocale de Benji, figure du binôme Neg Marron, réveille la mémoire de ses classiques avec une touche de modernité. On écoute.
Hello, hello, Diarra, c'est Benji. Écoute, je viens de t'envoyer mon nouveau morceau, « Si Dieu le veut ». Un morceau qui parle de l'Afrique, évidemment. Sous un regard optimiste, avec beaucoup d'espoir, de l'espoir en cette jeunesse africaine, une jeunesse engagée, de l'espoir pour ces femmes africaines qui portent le continent à bras-le-corps, et de l'espoir tout simplement parce que si Dieu le veut, ben, ce continent est promis à un bel avenir, et ça j'en suis persuadé. Donc je te laisse écouter le titre, et je te quitte sur ces belles paroles. À bientôt, ciao.
Noir c'est noir, mais nos matières premières brillent comme un phare dans la nuit. Afrique merveille du monde, même si certains diront c'est pas le paradis. Fier, marque le pas, droit devant nous, y'a ce qu'on mérite. Les petits frères ne rêvent plus d'Amérique, villa au bled avec vue panoramique. Respect à nos icônes, tous ceux qui ont refusé d'obéir. C'est pas que Wakanda, c'est Game of Thrones, mais les jeunes leaders, je les vois venir. Des milliers, des milliers, des milliers de femmes au savoir-faire authentique. Les lettres de Chikaya Mtansi me parlent quand je suis pensif, son rêve est possible. Demain ça ira si Dieu le veut, on se relèvera si Dieu le veut. La roue va tourner si Dieu le veut, mes frères et mes sœurs, du courage est. Ça ira si Dieu le veut, on se relèvera si Dieu le veut. La roue va tourner si Dieu le veut, mes frères et mes sœurs, on s'enjaillera un peu. On dit y'a les uns, y'a les autres, moi je dis rassemblons-nous. Faut garder la tête haute, même quand on fléchit le genou. Maman a déjà trop travaillé, pourtant l'avenir est flou. À Paname avec ou sans papier, on sent des regards chelous. Divisé, 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 on perd trop de temps à se comparer. Auparavant, nos pères étaient frères, nous faisions la paire, nous en étions fiers. Divisé, 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 nord, sud, est, ouest, trop d'amour entravé. Jamais scellé, parce que venu d'ailleurs, d'ailleurs. Demain ça ira si Dieu le veut, on se relèvera si Dieu le veut. La roue va tourner si Dieu le veut, mes frères et mes sœurs, du courage est. Ça ira si Dieu le veut, on se relèvera si Dieu le veut. La roue va tourner si Dieu le veut, mes frères et mes sœurs, on s'enjaillera un peu.
C'était « Si Dieu le veut » de Benji.
Alors on dit quoi? Jaranjaï.
Et tous les samedis, alors on dit quoi? Décrypte des infox. On vous propose de vérifier des faits consacrés à l'Afrique qui ont circulé sur Internet en collaboration avec l'école de journalisme EJICOM à Dakar et le site de vérification de fausses nouvelles Africa Check. Et je suis justement en ligne avec notre chroniqueur pour en parler. Bonjour Valdez.
Bonjour Diarra.
Vous avez récemment, Africa Check, démonté une fausse information qui a largement circulé au Sénégal au sujet du coût du complexe sportif Dakar Arena. De quoi s'agit-il? Exactement, Valdez.
Eh bien, des Sénégalais ont partagé sur les réseaux sociaux un photomontage qui montre D'un côté, Kigali Arena et de l'autre, Dakar Arena, deux complexes sportifs construits dans les deux villes par l'entreprise turque Suma. Eh bien, ce photomontage indique que Kigali Arena, qui compte 10 000 places, a coûté seulement 6 milliards de francs CFA au gouvernement rwandais, au moment où Dakar Arena et ses 15 000 places aura coûté 66 milliards de francs CFA au gouvernement sénégalais. Vous me demanderez peut-être quel est le problème. Il se situe au niveau de la différence entre le nombre de places, donc 5 000 places, et le prix, c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA.
Bien. Et qu'en est-il donc? Est-ce que les coûts avancés pour les deux édifices sont réels?
Alors, très rapidement, le coût avancé pour Dakar Arena est correct. Et quant au prix de Kigali Arena, les 6 milliards de francs CFA, donc, il n'est pas conforme aux données disponibles. Nous avons consulté un rapport établi en 2018 par le cabinet Exotis Capital, qui est devenu depuis Télimère. Et donc, ce rapport a été réalisé pour le compte de l'entreprise Suma, qui, je le rappelle, a construit donc les deux complexes. Dans ce document-là, il est indiqué que le contrat pour la construction de Kigali Arena, sous forme de partenariat public-privé, sera de 104 millions de dollars, soit environ 61 milliards de francs CFA. Et quand je dis partenariat public-privé, c'est-à-dire que l'investissement de l'entreprise Suma avait été fixé donc à environ 17,7 milliards de francs CFA. Le Rwanda, donc le gouvernement rwandais, lui a déboursé environ 18,3 milliards de francs CFA et le reste est 25 milliards de francs CFA. Le rapport précise qu'ils ont fait l'objet d'un emprunt.
Donc, contrairement à ce qui a été annoncé, le Dakar Arena et ses 15 000 places n'ont pas coûté 60 milliards de francs CFA de plus que le Kigali Arena et ses 10 000 places.
Exactement, on dira.
Et pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus, eh bien, nous vous conseillons de visiter le site web d'africatech.org. Vous y avez consacré, Valdez, un article à ce sujet. Merci beaucoup.
Alors, on dit quoi sur RFI?
Et place à la rubrique culture d'Anna. Coucou Anna.
Hello Diara.
Alors, quels sont les plans de cette semaine, Anna?
Eh bien, rendez-vous à Bamako le 25 octobre à l'Institut français pour le One Man Show de Wallace. En effet, d'origine marocaine, il a grandi en Côte d'Ivoire et est considéré comme l'un des meilleurs humoristes d'Afrique francophone. Son âme, une efficacité à toute épreuve, une irrésistible drôlerie, une faculté impressionnante à incarner des personnages et des vannes bien senties sur les dialogues entre les cultures, la religion, la politique et le tout sans aucun tabou. Son verbe acide et subtil est un élixir qui permet de tout dire. Sa marque de fabrique, parler avec humour, moquerie et bienveillance des Ivoiriens, des Libanais au Maroc ou des Marocains en Côte d'Ivoire. Un phénomène hors norme à ne rater sous aucun prétexte. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de l'Institut français de Bamako sur Internet.
Merci Anna.
Au plaisir Diara.
Alors on dit quoi? C'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous discuterons autour d'un sujet un peu délicat qui donne lieu en tout cas à beaucoup de débats passionnés, le lien entre réussite et diplôme. Les exemples d'autodidactes ayant connu une réussite incroyable sont suffisamment nombreux pour rassurer ceux qui n'ont pas de diplôme. Pourtant, ces autodidactes restent une exception. Alors, est-ce possible de réussir sans diplôme en Afrique? Donnez-nous votre point de vue, partagez avec nous votre expérience. Nous attendons vos commentaires. Pour ce faire, rien de plus simple, contactez-nous sur notre page Facebook, sur notre Instagram ou sur notre Twitter. Alors, on dit quoi? Merci à toute l'équipe de l'émission, Beverly, Mariam, Awa, Daba et Guillaume. Où que vous soyez dans le monde, nous vous saluons. On se retrouve même heure, même fréquence sur RFI la semaine prochaine. Salut, Ubnono Ha Gangol, à bientôt.